Salut, c'est Anne.
Hello, c'est Selma. Bienvenue dans le crossover des podcasts Carcan Stellaire et Mel et Mélie, notre rendez-vous périodique à deux voix pour parler des pratiques d'accompagnement à travers un angle décolonial.
Ici, on utilise des mots comme eurocentrisme, décolonialité, chute du patriarcat, hétéronormativité à la poubelle, et on peut dire des choses comme brûlons le capitalisme. Nous sommes toutes les deux professionnelles de l'accompagnement et nous proposons un espace de formation pour les pros du soin qui veulent décoloniser leur pratique, la pilule rouge.
C'est parti pour une demi-heure de communautarisme, d'islamo-gauchisme, de wokisme et tous les autres ismes qui font trembler le système.
Hello Selma.
Hello Anne.
Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre crossover qu'on a décidé d'appeler chez la famille blanche, finalement. Et aujourd'hui, on va vous partager, encore une fois, des réflexions sur la perception qu'on peut avoir des femmes racisées. Donc, moi, j'avais une anecdote à partager. C'est que je donne des cours dans les structures. Je donne des cours calmement, tranquillement. j'ai réalisé en fait qu'il y avait un espace personnel enseignant qui permettait de laisser des commentaires. Donc je suis allée voir, j'ai vu que j'étais bien notée et j'ai vu qu'il y avait quelques commentaires. Donc il y avait des commentaires positifs et puis il y avait un commentaire que je considère comme négatif et que je considère raciste. Donc c'est un commentaire en gros qui disait que en gros le cours était intéressant. Mais que j'aurais pu être plus douce et dire les choses de manière plus calme et moins véhémente dans ce cours, que ça aurait aidé en fait. Et ça, c'est un message qui a été laissé par une personne qui, je pense, a regardé que en replay. Et c'était hyper frappant parce que c'est un cours où j'ai été... Je pense comme à chaque fois que je délivre du contenu de transmission, je pense que c'est un retour qu'on me fait très souvent, c'est que je suis pédagogue, je dis les choses de manière calme et que voilà, je suis plutôt dans la rondeur et j'ai tendance à mettre les formes, surtout quand je parle de... Là, pour vous, c'était dans le cadre d'un cours où je parlais de même d'un sujet assez... radicale et qui peut être complexe pour des personnes qui n'ont pas de base en la matière, je mets quand même vraiment l'accent sur la pédagogie.
Ouais.
Voilà, donc c'est un commentaire où je me suis vraiment dit, je suis perçue comme une femme racisée, quoi. Avant.
Mais du coup, ça serait mieux passé, qu'est-ce qui serait mieux passé si tu n'étais pas véhémente, comme le dit la personne?
Ça, c'est une bonne question. Ouais, je trouve ça toujours intéressant qu'on dise aux femmes en général et aux femmes racisées en particulier que leur colère dessert leur cause.
Ouais.
Comme si, en fait, l'aspect émotionnel venait troubler le message. Alors que pour moi, le contexte émotionnel du discours de quelqu'un vient renforcer son message, au contraire. Et je trouve ça incroyable qu'on soit dans une société où on considère que si tu es en colère, on ne comprend pas ce que tu dis.
Mmh.
Sachant que à aucun moment, je n'ai crié, par exemple. On ne peut pas dire que parce que je crie, on ne comprend pas ce que je dis, ou parce que je pleure, je suis incohérente. Ouais. En fait, j'ai parlé de manière très calme. Il y a un point où j'ai dit, en fait, ça, c'est un point très problématique. Donc, je vais l'expliquer juste une seule fois. Et je n'en reparlerai plus. Donc, concentrez-vous. mais voilà, je l'ai dit de cette manière-là.
Oui.
Et ensuite, j'ai passé mon cours à dire, je sais que c'est compliqué, si vous n'en avez jamais entendu parler, je sais que c'est des concepts qui ne sont pas forcément faciles à maîtriser du premier abord. Donc, je peux répéter, je peux réexpliquer, je suis là pour ça, etc. Et donc, c'est vraiment frappant, en fait.
Mmh.
Voir que c'est ça qu'on retient
oui.
de ce cours.
Ouais. Et comment tu te sens par rapport à ça?
Ben, pas bien. En fait, enfin, maintenant, ça va. Mais sur le moment, je me suis dit, mais c'est grave injuste, en fait.
Mm.
Je trouve ça injuste parce que je pense que j'ai une personnalité qui est très tournée vers l'autre. La pédagogie, ça me tient vraiment à cœur. J'ai toujours voulu... Ben, par exemple, ma vocation, quand j'étais petite, pendant très, très longtemps, c'était d'être prof. J'ai toujours voulu enseigner, j'ai toujours voulu transmettre. Donc, j'ai toujours été dans cette démarche-là. En plus, j'ai une construction, je pense, psycho-émotionnelle qui est à fond dans l'adaptation. Voilà, je me suis construite comme ça, dans l'adaptation aux autres, à mon environnement et tout ça. Et je pense que j'ai grandi aussi dans un truc où j'avais conscience qu'il ne fallait pas faire de vagues, il fallait être calme, être sage, etc. Moi, j'étais vraiment dans le truc de la petite fille sage. Et c'est quelque chose que je, même si j'ai travaillé dessus, c'est quand même quelque chose que je conserve et qui, même quand j'ai un discours militant, engagé, radical, ce qui est souvent, je garde quand même cette posture-là. Je ne suis pas quelqu'un qui crie, par exemple. Je ne suis pas quelqu'un qui parle fort. Je ne suis pas quelqu'un qui va partir au quart de tour dans une réponse. Je vais toujours réfléchir à ce que la personne me dit et je vais toujours être un peu en mode je mesure mon propos et justement aussi je prends en compte mes émotions sur le moment pour faire aussi la part des choses.
Oui.
Je trouve ça d'une violence inouïe d'être ramenée à un stéréotype de femme noire ou femme racisée en colère, alors qu'il n'y a rien dans mon attitude qui ne donne de prise à ça en réalité.
Ouais, bah ouais, clairement. Alors, bah du coup, comme on travaille ensemble, donc je peux attester ce que tu dis. Et puis, même si ce n'était pas le cas, moi, je trouve ça grave. C'est-à-dire qu'il y a plein de femmes noires qui quand elles parlent, elles peuvent paraître comme n'importe qui. En fait, on a des façons de s'exprimer différentes. Et on peut ne pas paraître doux et ne pas correspondre à ce qu'on attend d'une personne douce, sans pour le temps être véhémente. Et donc, il y a plein de femmes noires et racisées qui vont s'exprimer à leur façon, parce qu'elles s'expriment comme ça. Et ça ne veut pas dire qu'elles sont véhémentes, ça veut juste dire qu'elles s'expriment comme ça et qu'elles ne correspondent pas au stéréotype de ce que ça veut dire la douceur ou de ce que ça veut dire le calme, etc. Et quand bien même ce serait le cas, ce n'est pas une raison, en fait, pour te mettre un commentaire comme ça.
Mais c'est intéressant de voir que... Parce qu'on peut aussi tomber dans la croyance qu'effectivement, le stéréotype de la femme noire en colère se base sur un truc réel.
Bah non, non.
On pourrait se dire, quand une femme noire se met à crier, le stéréotype lui tombe dessus.
Bah non.
On constate que quoi que tu fasses,
ouais,
le stéréotype te tombe dessus, même si tu es très calme. Et en fait, c'est intéressant parce que quand j'ai lu ce commentaire, j'ai vraiment pensé à toi, celle-là. Parce que, pareil, tu es une des personnes les plus douces que je connaisse. Dans ta voix qui est toujours très douce, tu cries jamais, tu parles doucement, tu expliques les choses. Tu peux dire des choses radicales et qui mettent inconfortables les gens, mais tu le dis très calmement, t'expliques. Tu es aussi vachement dans l'accueil émotionnel de ce que ça peut générer. Et malgré tout ça, il y a des gens qui vont te percevoir comme quelqu'un d'énervé.
Ouais, moi je suis très très souvent perçue comme quelqu'un d'énervé et comme quelqu'un de très radical et comme quelqu'un. Une fois on m'a déjà dit tu pues la haine. Genre comme ça. De façon très très. Voilà. Donc ça peut m'arriver que ce soit en ligne. Que ce soit après avoir écouté un épisode de podcast, par exemple, il y a des gens qui vont m'écrire des messages, mais ça peut aussi arriver parfois quand je fais des conférences en présentiel où je peux recevoir quelques messages. Alors, ce n'est pas la majorité, heureusement, hein, mais je peux recevoir quelques messages de personnes qui me disent « Ah, c'était hyper intéressant, mais c'est dommage, tu es trop radicale. C'est hyper intéressant, mais c'est dommage tu ne sois pas plus calme ou que tu ne sois pas... plus dans la douceur, etc. Et moi, à chaque fois, je tombe des nues puisque, en fait, je corresponds au stéréotype de la douceur tel que valorisé par les Blancs, en fait. Je change juste parce que j'ai été éduquée comme ça, parce que, pareil, ma mère, pour elle, il ne fallait pas faire de vagues. Et il faut être calme, il faut être doux. Il ne faut pas qu'on soit perçu comme des gens énervés parce que c'est dangereux d'être perçu comme des gens énervés. Donc, moi, j'ai été éduquée comme ça. Et puis aussi... ça fait aussi partie de ma personnalité. Et en plus de ça, comme à la base, moi, je suis thérapeute. Donc, du coup, ma façon de transmettre, c'est toujours basé sur comment est-ce que tu te sens dans ton corps. Donc d'abord, avant de... Enfin, quand je balance des trucs, il y a toujours un espace d'accueil émotionnel, même s'il y a 100 personnes dans la salle, même s'il y a 200 personnes dans la salle, il y a toujours un moment de comment est-ce que vous vous sentez quand vous entendez ça. C'est important de prendre le temps de se poser et de prendre conscience de comment on se sent. Donc en fait, c'est pas comme si on balançait les trucs, comme si on prenait pas en compte que ça pouvait trigger des gens. On le sait que ça peut trigger des gens. Mais en fait, c'est vrai que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on peut être perçu comme ça, comme une personne énervée. Et moi, je trouve ça hyper intéressant qu'on commence notre propos pour parler des stéréotypes et tout, en appuyant bien sur le fait qu'on est des personnes douces. Genre, ouais. Mais du coup, il y a des personnes qui sont pas... Enfin, je pense à une personne en particulier, c'est une femme, elle est psy, et elle fait des conférences. Et en fait, quand elle s'exprime, elle n'est pas dans... moi, ça ne me trigger pas, sa façon de s'exprimer. Mais je pense que ça doit beaucoup trigger les Blancs, parce qu'elle les cache, elle les rentre dedans. Mm. Et du coup, si c'est un homme blanc qui s'exprime comme ça, on ne va pas dire du mal, en fait. Ça va être perçu comme quelque chose de positif. Mais elle, c'est une femme perçue comme arabe musulmane qui porte le hijab. Donc forcément, quand elle s'exprime, c'est tout de suite « Ah non, ça ne va pas du tout. Elle est trop agressive, elle est trop ceci, elle est trop cela. » Et en fait, pourquoi je dis ce truc de douceur et tout, parce que c'est vrai que nous, on est dans ce truc de douceur et y a plein de gens qui ne le sont pas. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont agressives, en fait. C'est juste qu'elles s'expriment comme ça, que c'est leur personnalité. Et c'est OK aussi de s'exprimer de cette façon-là. Mais en fait, quoi qu'on fasse, on est perçu comme agressive.
Mais là, tu mets le doigt sur un truc aussi. C'est des spécificités sur les stéréotypes raciaux. Parce que moi, je suis hyper... Enfin, on a... un physique, on va dire, racial qui est similaire. Mais c'est pas tout à fait la même chose, parce que moi, je suis perçue comme une fille des îles. Voilà. Donc, j'ai ce côté un peu... en tout cas, dans le contexte français, on me perçoit en accord quand même avec mes origines depuis que j'ai mes cheveux naturels. Donc, il y a ce côté, on va me dire que je suis solaire, on va me dire, voilà, et le côté négatif de ça, c'est toute l'exotisation qu'il peut y avoir. Voilà, on m'a déjà touché les cheveux en me disant que c'était exotique, tout ça. Ou toi, t'es comme ça, toi, t'es comme ça. J'ai aussi cette image de quelqu'un d'un peu maternant et tout ça, qui match aussi, je pense, avec mon énergie et ma personnalité, mais qui est aussi en accord avec ce stéréotype-là. Et je vois bien la différence, parce que je constate qu'aujourd'hui, étant perçue comme ça, je suis dans ce cas de figure uniquement quand je vais avoir un propos politique et radical, forcément. je suis dans cette posture, enfin, je suis perçue comme ça que quand j'ouvre ma bouche. Si je suis juste présente dans un espace, je vais pas être perçue comme en colère, parce que voilà, anti soleil, sable fin et tout ça. Alors que il y a quelques années, je me lissais les cheveux. Je me suis lissé les cheveux pendant longtemps, lissé les cheveux. Et quand j'avais les cheveux défrisés, j'étais plutôt perçue comme, on va dire, arabe. Ça n'a pas de sens. Mais j'étais perçue comme arabe. Et du coup, je me mêlais tous les stéréotypes raciaux. Et c'est pas la même chose, en fait.
Oui.
D'être perçue comme arabe, t'es perçue comme énervée de base, quoi. Même si tu dis rien.
Ouais, c'est assez particulier. Moi, c'est pareil. Alors, je suis la majorité du temps perçue comme arabe. Et ça dépend après comment je me coiffe, ça dépend avec qui je suis, ça dépend comment je suis habillée et tout. Mais ça peut m'arriver d'être perçue comme une femme noire très claire de peau, une femme métisse très claire de peau. Et j'ai pas du tout la même façon d'être perçue. Parce que du coup, si j'étais perçue comme noire, quand je suis perçue comme noire, je suis perçue comme la femme noire acceptable. Qui est juste assez noire pour dire qu'on a de la diversité. Mais du coup, comme je suis toute petite, je suis menue, je ne prends pas beaucoup de place, je m'exprime d'une façon qui est acceptable, etc. Du coup, voilà, il y a ce truc pareil d'exotisation. Et comme les gens, ils n'arrivent pas trop à capter d'où je viens, Donc, du coup, il y a un truc de mystère. Et puis, il y a ce truc, voilà, le truc solaire, machin. T'es notre petit rayon de soleil, machin. Parce que c'est un truc aussi beaucoup que je peux vivre. Mais la majorité du temps, je suis perçue comme une femme arabe et une femme musulmane. Alors là, le fait d'être petite, menue, ça change absolument rien.
Tu deviens la petite taille d'un coup.
Là, d'un coup, alors c'est soit... faut que je sois soumise, donc faut se taire et rien dire. Et en fait, du coup, juste emmagasiner le truc. Et là, il n'y a aucun problème. Mais chose que je ne fais pas, évidemment. Mais du coup, j'ai remarqué que c'est vraiment ma présence. Peu importe que j'ai un discours politique ou pas, c'est ma présence qui va... Enfin, genre, je suis là dans cet espace et on va me percevoir comme un danger. On va me percevoir comme... Mais vraiment pour des trucs qui sont anodins de la vie quotidienne. Je vais être perçue comme agressive juste parce que je suis là et parce que je parle. En fait, je cherchais.
Ça, c'est la construction du système raciste et l'échelle raciale. Parce qu'en fait, toi, tu vas correspondre à un stéréotype un peu de terroriste.
Ouais.
Alors que je trouve que dans la lecture de la femme noire claire de peau, on retrouve le code noir et on retrouve la hiérarchisation raciale. Et donc, la femme noire claire de peau, dans un contexte de métissage antillais, tout ça, ça va être la femme noire qui se rapproche le plus de la blanchité, qui se rapproche le plus du colon et qui va avoir accès à plus de choses. Alors que ce n'est pas la même chose d'être claire de peau, mais perçue comme nord-africaine.
Ah non.
Pas le même contexte politique. Et c'est super intéressant de voir à quel point c'est pas conscientisé dans notre espace social, mais que toute cette organisation sociale à travers le prisme racial, il se retrouve aussi dans les réactions des gens.
Mais complètement. Et donc du coup, en fonction de comment on est perçu, les gens ils vont pas avoir la même façon de. Enfin, ils vont pas. En fait, la réaction des gens, c'est une projection de ce qui se, enfin de ce qui se font de ce qu'on est, enfin c'est une projection qui se font de ce qu'on est, de qui on est, de notre identité, et donc du coup ça n'a souvent aucun sens et c'est complètement déconnecté de qui on est vraiment, et je trouve ça intéressant de décortiquer ça, parce que justement quand on parle de, enfin, toi, tu dis que c'est souvent quand tu dis les termes que tu es perçue comme une personne en colère, énervée, véhémente, etc. Moi, que je dise les termes ou pas, genre, je vais le vivre la plupart du temps. Mais en plus de ça, on est dans une posture, nous, dans notre métier, où on dit les termes tout le temps. Enfin, ça fait partie de notre métier de dire les choses. Donc, du coup, on est amené quand même à beaucoup vivre ce genre de choses. Et moi, ça, je le vis mieux dans le contexte pro que dans le contexte perso. Je sais pas, toi.
Oui. Oui, parce que dans le contexte perso, je trouve qu'il y a... C'est pas la même posture. Le fait d'avoir la posture professionnelle, dans le contexte professionnel, ça protège quand même, je trouve. Et je suis en position où je m'attends à ce qu'il puisse y avoir quelque chose qui surgisse. Donc, je suis pas prise au dépourvu. Et je suis dans ma posture professionnelle, donc j'ai en place mes mécanismes qui me permettent de rester en sécurité. Mais par contre, dans la sphère privée, c'est terrible parce que du coup, surtout dans l'intimité, je vais être détendue. Je ne vais pas être en mode un peu hypervigilance aussi, malgré tout. Je vais être plus, du coup, je trouve qu'on est plus vulnérable à ça, quoi. Et ça peut se passer aussi.
Ouais, complètement. Moi, c'est pareil, en fait, quand je suis en contexte pro, je prends ça en compte dans la façon dont je vais gérer mon énergie. C'est-à-dire que, honnêtement, je sais que dans 90% des cas, quand c'est pas des trucs en non-mixité, 90% des cas, je sais que je vais avoir au moins une remarque sur ma façon de m'exprimer, sur le fait que je suis trop radicale, sur... Moi, ça ne me dérange pas qu'on me dise que je suis trop radicale. J'ai arrêté, il y a des décennies, Voilà. mais du coup, c'est vraiment le truc de « Non, mais t'es trop en colère et t'es trop énervée. » Bah, en fait, oui, je suis en colère. En vrai, c'est vrai. Bah, on ne va pas se mentir. Moi, je fais des ateliers qui s'appellent le feu dans nos veines. On parle de la rage. Je le cache pas, en fait. Et pour moi, c'est pas quelque chose de mal ou de mauvais d'être en colère. C'est normal d'être en colère dans un système qui est totalement injuste. C'est normal.
C'est quand même incroyable, moi, je trouve qu'il y ait ce stéréotype de t'es en colère, donc tu disqualifies ton propos.
Ouais.
T'es en colère, donc t'es inaudible.
Ouais.
J'arrive pas trop à comprendre, en fait. Pour moi, l'émotion qui accompagne le discours, quelle qu'elle soit, elle informe le discours, elle donne un contexte au discours, elle renforce le discours, mais elle va pas disqualifier le discours ou rendre le discours inaudible. À quel moment? À part si on est en train d'hurler dans un micro qui grésille où on comprend pas techniquement les choses, je vois pas en quoi la colère dessert le propos. Et ça, c'est vraiment un truc qui revient beaucoup dans le féminisme tout court, de dire, voilà, si t'es une femme blanche et que t'es en colère, t'es hystérique, et du coup, tu desserres ton propos. Mais si t'es une femme racisée en colère, oh là là, non seulement t'es hystérique, ça, c'est, ça s'inscrit dans l'intersectionnalité de la misogynie noire, non seulement t'es hystérique, mais en plus, t'es dangereuse. Mais en plus, tu viens remettre en question un système, tu viens menacer l'ordre social.
Ouais. Complètement. Du coup, les femmes blanches, contre le patriarcat, elles sont perçues comme hystériques. Mais les femmes blanches, face à des femmes noires ou à des femmes racisées, elles sont perçues comme douces, pures. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir comment ça s'articule. Parce qu'en fait, la même personne, elle peut, dans un contexte, être perçue comme hystérique. Et donc, du coup, ne pas comprendre qu'elle fait vivre des mécanismes similaires à d'autres femmes et que du coup les mécanismes qu'on utilise pour la silencier elle en tant que femme blanche, c'est elle qui les utilise pour silencier d'autres femmes avec d'autres stéréotypes hein, parce que du coup on peut dire hystérique pour nous aussi mais du coup c'est hystérique et sauvage genre... donc du coup c'est encore pire. Et puis en plus, voilà, après, quand on est perçu comme arabe, on est hystérique, sauvage et terroriste. Potentielle menace terroriste. Je dis ça parce que, en fait, moi, dans ma vie personnelle, même juste en faisant des trucs du quotidien, j'ai pu vivre ces derniers mois des moments où, en fait, je suis juste là en train de vivre ma vie et. Il y a des gens qui me parlent de terrorisme comme ça. Genre, par exemple, je vais chercher mon fils à l'école et il y a une meuf, je ne sais pas d'où elle sort. Elle ne veut pas me laisser rentrer dans l'école. C'est j'allais le chercher à l'étude. Et elle ne veut pas me laisser rentrer dans l'école. Et du coup, je lui dis, je vais rentrer en fait parce que je vais chercher mon fils. Et avec la douceur qui me caractérise. Et elle me dit, non, je ne sais pas qui vous êtes. Et je lui dis, moi non plus, je ne sais pas qui vous êtes. Vous ne pouvez pas ne pas me laisser rentrer dans l'école pour aller chez mon fils, alors que visiblement, vous ne savez pas qui je suis. Moi, je ne sais pas qui vous êtes. Ça n'a aucun sens. Et elle me dit, ouais, mais on est en alerte attentat. Donc, je ne peux pas vous laisser rentrer parce que je ne sais pas qui vous êtes. Donc, il faut sonner.
Oh, wow.
Et ouais, c'est des trucs comme ça. Où, du coup, c'est juste existe et on te dit, mais en fait, potentiellement, tu as un danger parce que ta tête, elle est chelou, on dirait un peu. Tu ressembles un peu à des gens qui sont terroristes. Donc, du coup, peut-être on ne va pas te laisser rentrer parce qu'on ne sait jamais. Il y a mon enfant qui est dans l'école et on ne sait jamais si tu vas aller terroriser les enfants. Et du coup, c'est des trucs comme ça. Genre, ça peut paraître grave, anodin, mais en fait, c'est tout le temps.
C'est ça.
En permanence et en fait non, enfin j'ai pas à me justifier de ce à quoi en fait j'ai arrêté de montrer patte blanche. Ok, on est en alerte attentat, ok, on est en alerte attentat, potentiellement toi aussi tu peux être un terroriste en fait. Du coup, depuis que j'ai arrêté de montrer patte blanche et que j'ai arrêté d'avoir peur que les gens aient peur de moi. Je me sens tellement légère. Pas toi, mais je me sens tellement légère. Et ça me fait penser à plein de trucs que des personnes que j'accompagne peuvent me dire. Par exemple, j'accompagne beaucoup d'hommes racisés qui vont changer de trottoir quand ils sont spécifiquement derrière une femme blanche. C'est pas derrière une femme, tu crois. Spécifiquement derrière une femme blanche, pour ne pas lui faire peur, je change de trottoir. Et je pense que dans le pour ne pas lui faire peur, il y a le truc de j'ai peur de lui faire peur, mais j'ai aussi peur que le fait qu'elle ait peur, ça soit un danger pour moi.
Bah exactement, parce que c'est tout le truc des Karen.
Ouais.
Qui vont justement utiliser leurs larmes comme, comme arme contre nous, enfin, contre les personnes racisées et les hommes racisés encore plus, pour dire voilà, c'est un danger, toutes les meufs qui appellent la police. Forcément, le gars, il se met potentiellement en danger si la femme pense qu'elle est en danger.
Complètement. Et donc, du coup, dans le truc privé, personnel, c'est un truc, moi, qui me touche aussi. Genre, je le vis mal d'être perçue comme un danger, mais j'ai arrêté de montrer patte blanche. Mais du coup, dans les faits, c'est vrai que bah, j'ai pas envie en fait, d'être perçue comme un danger alors que je suis en train de faire ma vie. Mais j'ai réussi à me distancier au point... Mais après, c'est parce que je peux le faire, parce que j'ai le privilège de... Enfin, c'est très, très rare quand même qu'on appelle la police pour moi. Parce que genre, les gens, ils vont essayer de me mettre un coup de pression. Ou bien, peut-être que... Enfin, j'ai dit ça, mais en fait, en vrai, des fois, je peux être perçue tellement comme un danger qu'il y a des gens qui peuvent avoir tellement peur qu'ils vont appeler la police ou tellement peur qu'ils vont essayer de me faire expulser d'un lieu ou quoi. Ça peut arriver, ça a pu m'arriver. Mais du coup, c'est un truc duquel je me suis un petit peu distanciée et je me sens beaucoup plus légère. Et donc, dans la sphère pro, bah, du coup, je dis juste les termes. Et moi, je fais mon job jusqu'au bout. C'est-à-dire que même si je me mange... des agressions racistes ou des gens qui vont me faire des remarques stéréotypées, etc. Bah, je vais quand même rester pédagogue, je vais quand même continuer à faire mon taf, mais c'est pas ça qui va faire que je vais faire attention aux mots que je vais utiliser. Alors qu'avant, je faisais quand même attention, je me disais, bon, là je suis dans tel contexte, donc je vais plutôt dire les choses comme ça. Puis avant, c'était il y a plusieurs années, hein. Je vais plutôt dire des choses comme ça pour pas que ce soit mal perçu, etc. Maintenant, je le fais plus du tout, c'est-à-dire que j'arrive et je dis mon truc. Et si je vais parler de stress racial, je vais parler de stress racial. Si je vais parler de trauma des auteurs, je vais parler de trauma des auteurs. Si je vais parler, enfin, je dis les termes comme on dit là, tu vois, les trucs sur les femmes blanches, et ben je dis les trucs sur les femmes blanches et point barre. Et du coup, ça aussi, c'est perçu comme encore plus radical. Mais en fait, j'ai pas envie de lisser mon discours par peur d'être perçu comme une menace, alors que je ne suis pas une menace et que c'est pas ma responsabilité de faire ce taf. En fait, à un moment donné, il y a un travail émotionnel à faire de l'autre côté. Et les personnes blanches, vous avez besoin de prendre vos responsabilités, de faire ce travail émotionnel pour vous poser la question... Mon insécurité, elle prend racine dans quoi ? Est-ce qu'elle prend racine dans un rapport de domination ou est-ce qu'elle prend racine dans un danger potentiel que je perçois ? Et c'est pas la même chose, en fait, de se sentir en insécurité sur des stéréotypes racistes que de se sentir en insécurité parce qu'on est dans une position de dominer.
C'est sûr. Moi, c'est pas pareil pour moi. Parce que, encore une fois, comme moi, on me colle ce stéréotype que quand j'ouvre ma bouche. Et que j'ouvre ma bouche plutôt dans le contexte professionnel. Ça paraît parce que du coup, dans le contexte professionnel, j'ai tous mes mécanismes. Par contre, quand on balance des trucs racistes dans ma sphère perso, là, moi, je sidère, quoi. Je sidère. Et souvent, justement, c'est ça qui est compliqué. Je pense que ça renforce le fait que c'est hyper important pour moi d'avoir un discours radical dans ma sphère professionnelle. C'est que dans la sphère privée, je suis toujours prise au dépourvu, en fait. Par exemple, on était allé en vacances, je suis allée sur un marché, il y avait un vendeur d'olives blanc avec un t-shirt USA. Il m'a dit, j'avais un bandeau dans les cheveux et j'ai fait des bandeaux avec des pièces centrales en céramique. Et le gars, il m'a vu et il m'a dit, il m'a demandé si c'était un os.
Quoi?
Il m'a demandé si c'était un os. Et en fait, c'était tellement inédit. Et je me suis sentie tellement en danger qu'en fait, j'ai sidéré, quoi. Et c'est ça qui se passe, dans la sphère privée. Un jour, mon père, il m'a dit que les Basques ou les Bretons, je ne sais plus, étaient racistes. Je n'ai pas compris. Et en fait, ils disaient ça parce qu'en gros, ils veulent pas que les Parisiens viennent acheter leur maison, tu vois. Enfin, parce que mon père est blanc. Donc, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Et dans ces cas-là, je sidère et je pense que ça renforce aussi ma posture sur le plan professionnel où je vis tellement de trucs, j'entends tellement de trucs dans le privé et ma réaction, c'est tellement de sidérer parce qu'en fait, j'ai peur que dans le professionnel, c'est pas possible de laisser passer, quoi.
Ouais. Moi, ça dépend, hein. Il y a des moments où je vais sidérer. Il y a des moments où je vais être plus dans un truc de réponse. Il y a des moments où je vais avoir des réponses un peu sarcastiques. Il y a des moments où je vais faire semblant de ne pas comprendre. Ça dépend. J'ai pas toujours la même réponse dans la sphère privée. Par contre, là où je le vis très très mal, c'est dans la sphère intime. C'est-à-dire, si des personnes avec qui j'ai une relation très très proche. Et qu'il y a des mécanismes que moi je vois et que c'est des mécanismes que soit on essaie de me silencier sur ce que je suis en train de voir, soit on fait comme s'il n'y avait rien. Alors là, je pète un plomb. Mais vraiment, genre, c'est parce que du coup, tellement je suis dans un truc de. Enfin, le truc de silenciation, en fait, je me sens tellement pas écoutée. Parce que comme c'est une relation, comme c'est des relations qui peuvent être très très proches et très intimes, et qu'on a l'habitude de s'écouter, on a l'habitude de soutenir, etc. Mais que sur ce sujet en particulier, il n'y a pas de soutien, etc. Là, je peux sidérer, par exemple, ou je peux être dans la fuite. Ou, bon, ça m'arrive très, très rarement, parce que honnêtement, mon cercle amical et relationnel est de qualité. Plus, 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 merci les amis. Mais ça peut arriver de temps en temps, ou ça peut aussi arriver que ce soit des potes de potes. Et donc, du coup, tu sais, on est dans un cercle très safe où tu penses que tu es très safe et donc, du coup, tu vas parler de façon très libre, etc. Et puis là, tu te manges un truc où il peut y avoir genre l'ami d'un ami ou l'ami d'une amie qui va dire que tu as été agressive dans la conversation ou qui va dire que. Voilà. Vous voyez de quoi je veux parler. Mais donc, du coup, ça, c'est les choses que moi, je vis plus mal. Mais dans la sphère pro, en fait, voilà, je pense que ça fait partie des trucs à prendre en compte. Et du coup, aussi, prendre en compte que ça a un coût émotionnel plus élevé d'être dans notre position et de dire les termes que d'être dans d'autres positions et de dire les termes aussi. Ouais, je pense que c'est important de garder ça à l'esprit aussi.
C'est un coût émotionnel plus élevé et c'est moins valorisé socialement.
Ouais, c'est moins valorisé parce qu'on est dans l'émotion.
C'est ça. C'est un peu la double peine et ça, c'est quand même un truc qui est assez important à conscientiser pour les personnes blanches. C'est que ça nous coûte.
Ouais, en fait, ça nous coûte. Du coup, dans notre façon d'organiser les journées de travail, etc., c'est des choses qu'on prend en compte. Alors moi, personnellement, je me fais harceler depuis des années parce que je suis perçue comme une menace. Enfin, genre juste, la majorité des messages que je vais recevoir, ça va être des messages d'insultes parce que je suis perçue comme une menace. C'est-à-dire que je suis perçue comme la menace pour la société occidentale. Mais vraiment, donc du coup, ça crée une réaction de violence parce que je me mange beaucoup, beaucoup, beaucoup de violence. Et en plus de ça, je me fais beaucoup voler mon travail par des femmes blanches. Et en fait, du coup, ça me met dans une position où j'ai l'impression que nous, on a le travail émotionnel, plus le travail de réflexion, plus le travail de poser les choses. Et après, du coup, les lauriers, c'est pas nous qui les récoltons non plus. On est dans un truc où notre travail, il est invisibilisé, on se mange la violence. Et puis après, c'est d'autres personnes qui sont visibles sur notre dos. Et je trouve ça tellement injuste que, du coup, ça alimente la colère, en fait.
Tout à fait. Et en fait, je trouve ça, enfin, ça nous permet de faire le parallèle entre le stéréotype de la femme raciste en colère, qui est un stéréotype fallacieux, et en même temps, le fait que notre colère, elle est légitime, et que notre colère, elle représente pas un danger pour les autres ou pour la société. Elle représente un danger pour le système, mais pas pour... On ne représente pas forcément un danger pour le groupe ou pour les individus, mais pour le système. mais on est perçu comme un danger. C'est intéressant de voir comme cet axe-là autour de la colère. Il y a une réalité et on devrait avoir de la légitimité. On devrait recevoir de la légitimité, recevoir du soutien par rapport à ça. Et à la place, on est encore plus marginalisé. Voilà, on vous laisse réfléchir là-dessus. La prochaine fois qu'on voudrait nous envoyer un message pour nous dire qu'il faut qu'on se calme. Et c'est intéressant parce que les meufs blanches, elles vivent beaucoup ça aussi. Il y a beaucoup de mecs qui vont leur dire « calme-toi, ta colère dessert ta cause » et tout ça. Et malgré tout, elles vont quand même être dans une démarche oppressive auprès des meufs racisées sur un trope qui est différent mais qui est similaire. Et elles n'arrivent pas à voir que c'est des mécanismes parallèles alors qu'elles vivent un truc quand même qui est proche.
Moi, ce qui me saoule, c'est qu'en fait, dans beaucoup de cas, il y a le truc de essayer de créer la connivence. Et donc, du coup, c'est essayer de créer la connivence sur le fait d'expérimenter ce que c'est que d'être une femme en société.
Oui.
Et donc, d'être opprimée par le patriarcat parce que femme en société, sauf qu'on ne vit pas la même chose. Et que du coup, quand il s'agit d'aller regarder comment est-ce qu'on est aussi oppresseur à certains endroits, bah, les femmes blanches, elles ont beaucoup, beaucoup de mal à capter que bah, sur les questions raciales, elles sont du côté des oppresseurs. Donc, elles vont se distancier des oppresseurs et puis elles vont avoir un discours de les hommes blancs, les hommes blancs, les hommes blancs. Mais oui, d'accord. Ou des hommes, c'est même pas les hommes blancs, c'est la violence de tous les hommes. Alors là, c'est eux qui m'énervent. La violence de tous les hommes. Ok, d'accord, mais à un moment donné, la colonisation, c'est pas la violence de tous les hommes, c'est la violence des blancs. Remettons les choses. Et l'église au milieu du village, où il y a beaucoup ce genre de discours. Et les violences policières, c'est la violence de tous les hommes. Bah, en fait, non. Ça marche pas. Et du coup, aussi, il y a ce truc-là de création de connivence et de pas réussir à se percevoir comme étant oppresseur. Parce que il y a ce truc de se percevoir comme étant l'opprimé suprême dans la société.
C'est vraiment, c'est vraiment cette conception du féminisme blanc de le sexisme et l'oppression suprême. Si on brûle le patriarcat, il n'y aura plus de problème. Et tout vient de là, quoi. C'est incroyable, en fait, de voir que ça empêche beaucoup de personnes de se décentrer et de se rendre compte qu'en fait, il y a des moments où tu es en position d'opprimé, il y a des moments où tu es en position d'oppression, et c'est comme ça, en fait. Et tu ne peux pas non plus brûler le patriarcat. Si tu ne brûles pas le système raciste, si tu ne brûles pas tous les autres systèmes d'oppression.
Bah ouais, parce que ça fait partie du système. Enfin, juste, c'est une des composantes. Le patriarcat, c'est une des composantes du système. Ce n'est pas la composante suprême. Et du coup, il faut aller regarder aussi les intersections, etc. Et c'est hyper intéressant de voir l'incapacité à faire ça de certaines femmes blanches. Il y en a qui le font, hein, nous, à la tulle rouge.
On en a.
Mais du coup, dans beaucoup de cas, c'est compliqué. Et ouais, du coup, moi, j'ai beaucoup de personnes, de femmes racisées qui me disent que c'est plus difficile les relations avec les femmes blanches qu'avec les hommes blancs pour cette question, justement. Il y a toujours un truc de... Il y a une création de connivence, mais en même temps, il y a le danger d'être perçu comme un danger. Et donc, du coup, ça crée un truc pas très agréable, alors que la posture des hommes blancs, elle est claire.
Il n'y a pas d'ambiguïté.
Mais ouais, du coup, c'est intéressant cette réflexion et de... Bah, c'est ce qu'on disait dans le dernier épisode, d'ailleurs.
Oui.
On avait déjà un petit peu parlé.
Mais on va consacrer, je pense, un épisode complet sur ce sujet-là. Parce que c'est assez central aussi dans nos luttes et c'est un problème qu'on rencontre beaucoup aujourd'hui. Et je pense qu'on aurait 1 million d'exemples à donner sur ce sujet, aussi bien dans nos anecdotes personnelles que dans ce qu'on peut voir dans l'actualité.
Ouais.
Donc, on va consacrer un épisode entier là-dessus. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a donné de la matière à réfléchir sur vos perceptions et sur vos réactions aussi par rapport à d'autres, d'autres femmes racisées, parce que, y a des enjeux systémiques de domination très forts en fait, qui sont en jeu et qui ne sont pas anodins pour nous sur le plan à la fois social et psycho-émotionnel.
Ouais. Et on peut juste dire un mot sur l'histoire d'Inès Reg, puisqu'on est en plein dedans.
Allez.
Et que en fait, c'est exactement l'illustration de ce qu'on est en train de dire.
Donc, pour rappeler la petite histoire, en fonction de quand est-ce que les gens écouteront l'épisode, il y a un conflit de célébrités, c'est traité par la presse, entre Inès Reg, qui est une femme racisée nord-africaine, et...
Du
9-3, oui, en plus. Attends, elle est nulle. Et Natacha Saint-Pierre, qui est une chanteuse blanche québécoise, qui participe toutes les deux à Danse avec les Stars. Et en gros, il y a une altercation entre les deux. Et c'est traité par la presse comme, voilà, une querelle de stars, blablabla, blablabla. Alors qu'on est dans un cas avéré de racisme où Natacha Saint-Pierre a insulté Inès Reg, et où le traitement médiatique qui en a été fait, c'est que c'est Inès Reg qui est la personne dangereuse, violente, qui colle à tous les stéréotypes.
Complètement. Et du coup, Natacha Saint-Pierre, elle a porté plainte.
Elle a posé une main courante.
Ouais, une main courante, pardon.
Parce qu'elle avait peur, parce que ça avait permis d'insulter quelqu'un d'autre et que.
Elle avait peur des représailles. Et donc, du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, le... peut-être, je ne sais pas si elle a vraiment peur ou pas, parce qu'en fait, ce truc de peur, parfois, la peur, elle est là pour de vrai. Et du coup, la question à se poser, c'est quand j'ai peur, est-ce que ma peur, elle est basée sur... Est-ce que ma peur, elle est basée sur des stéréotypes racistes, ce qui est totalement le cas ici, ou est-ce que ma peur, elle est vraiment fondée? Déjà, mais après, la peur, c'est aussi quelque chose qui est utilisé comme une stratégie consciente de silenciation.
Exactement.
Et comme on sait que le stéréotype raciste sur les personnes nord-africaines du 9-3, et que du coup, Inès Reg, elle dit, de toute façon, mon équipe, c'est que des Noirs et des Arabes, du coup, c'est des gens de banlieue, c'est des personnes racisées de banlieue qui sont perçues comme violentes et comme des sauvages et des barbares, on va dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, du coup, ça donne de la crédibilité à ce que raconte Natacha Saint-Pierre. Donc, je ne sais pas si elle a vraiment peur ou pas, mais ce n'est même pas le sujet. Parce que si elle a vraiment eu peur, de toute façon, sa peur, il faut qu'elle aille la checker, puisque c'est une peur qui est basée sur des trucs racistes. Et donc, du coup, faut aller checker les trucs de racisme qu'on peut avoir. Et si la peur, elle n'est pas vraiment présente, quand même, la stratégie...
On est dans une instrumentalisation, je vais y arriver, et ça se perçoit un peu aussi dans la manière dont elle pose son discours, la voix d'homme qu'on entend derrière qui dit parfait. Il y a quand même pas mal d'éléments, d'indices qui montrent quand même qu'on a quand même l'impression qu'on est face à une stratégie de défense par l'attaque, parce que dans ce cas de figure, il y a des preuves, parce que tout ça, ça a été filmé, et donc elle a pas pu utiliser la stratégie de dire c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça, j'avais fait ça. Donc à partir du moment où t'es pris la main dans le sac, on voit les stratégies racistes, encore une fois, qui se remettent en place.
Ouais, et la stratégie de défense par l'attaque, du coup là, à mon avis, je donne mon avis, mais bon, je pense que c'est conscient et que, ils ont dû se poser, faire une réunion de 10 heures pour dire comment est-ce qu'on va faire pour la tête. mais en fait, des fois, cette stratégie de défense par l'attaque, elle est aussi inconsciente. Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent, je pense que si vous utilisez cette stratégie, ce sera une stratégie inconsciente et pas une stratégie consciente, parce que sinon, vous ne nous écouteriez pas. Parce que notre contenu serait tellement triggering pour vous que ce serait impossible pour vous d'écouter ce qu'on dit. Mais du coup, juste checker ça. Quand vous êtes dans une stratégie de défense par l'attaque, Souvent, ça va être, cette attaque, elle va être basée sur des stéréotypes racistes. Là, sur Inès Reg, enfin, quand on écoute ce que dit Natacha Saint-Pierre, c'est quand même très, très grave parce qu'elle insiste sur le fait que c'est une comédienne. Donc, du coup, qu'elle surjoue le syndrome méditerranéen. Genre, elle surjoue les émotions et que c'est une très bonne comédienne. Donc, en fait, elle fait semblant d'avoir mal et elle fait semblant. Du coup, il y a ce truc. Bon, le syndrome méditerranéen, c'est dans le milieu médical, etc. Mais là, ce sera un syndrome méditerranéen émotionnel, vous voyez? En gros, elle surjoue. C'est vraiment le stéréotype de la femme arabe sauvage, barbare, manipulatrice. Est hyper dangereuse parce qu'elle va venir avec sa meute de noirs et d'arabes casser les jambes de notre chanson.
Gros là.
Voilà. Et qui pour manipuler, parce que du coup, il y a aussi ce truc de la femme arabe manipulatrice qui joue de ses charmes, etc. Pour manipuler, elle va utiliser des stratégies émotionnelles. En fait, c'est vraiment le bingo raciste qu'elle nous a sorti. Et moi, je trouve ça dingue qu'ils se rendent même pas compte, genre, ils sont une équipe. Ça se voit qu'il n'y a que des blancs dans ton équipe, parce que sinon on nous aurait dit.
On en revient toujours au même. À chaque fois qu'il y a des dingueries racistes qui sortent, on voit que les équipes sont composées uniquement de personnes blanches, parce qu'ils ne voient pas le problème. Et pour les personnes qui nous écoutent, je vous invite aussi à aller regarder ce qui se passe dans tous les discours des personnes blanches, y compris des femmes, y compris des femmes féministes, qui vont dire c'est un non-sujet. Parce qu'on a beaucoup entendu ça ces derniers temps, on a beaucoup entendu, oui, ça nous saoule, c'est une bagarre de célébrités, on a marre d'entendre parler de ça, il y a des choses plus importantes dans le monde. Soit dit en passant, les personnes qui disent ça, souvent, ne parlent pas non plus de la Palestine.
Si, maintenant qu'il faut plus parler d'Inès Reg, on va parler de la Palestine, parce que c'est plus important.
Alors, c'est quoi les choses les plus qui sont plus importantes dans le monde? En général, ça va être... plutôt des trucs d'écologie d'autoroute et plutôt des trucs de vieilles lois sexistes à l'Assemblée nationale. Mais ça va pas être des trucs dans le monde plus important. On va pas tant parler ça de génocide. Mais, et c'est insupportable de voir que ces personnes-là, qui ont une conscience quand même politique, des systèmes dans lesquels on évolue parce qu'elles ont un discours féministe, se rendent pas compte que c'est pas la question en fait de est-ce que c'est une querelle de stars ou pas. La question c'est qu'est-ce que ça montre sur le plan systémique et qu'est-ce que ça vient réveiller sur le plan traumatique chez toutes les autres personnes qui vivent ça quotidiennement. Et c'est pas parce que toi t'es une femme blanche et que ça ne t'arrive jamais.
Non, parce que tu es de l'autre côté et c'est toi qui fais vivre ça aux autres. Moi, je pense que ça dit aussi beaucoup quand on ne veut pas voir l'oppression, souvent, enfin, pas tout le temps, mais très souvent, quand on ne veut pas voir l'oppression, qu'on ne veut pas écouter les personnes racisées quand elles disent des choses, c'est qu'on a des choses à se reprocher sur le sujet. Donc, potentiellement, juste le fait de dire non, mais nous, on ne veut pas entendre parler de ça, taisez-vous. Vous êtes en train de faire la même chose.
On est parti. Vous dites en fait, c'est un non-sujet. Natacha Saint-Pierre, Inès Reg, on s'en fout. Mais en vrai, vous prenez le parti de Natacha Saint-Pierre en faisant ça parce que vous silenciez la parole des femmes racisées et vous silenciez un exemple. C'est à la fois un exemple criant, devrait être hyper utile sur le plan collectif pour travailler ces problématiques-là. Et c'est à la fois juste une réactivation systémique de ce qui se passe tout le temps. Et du coup, on ne peut pas dire on s'en fout de ça, parce que si on dit on s'en fout de cette querelle entre ces deux meufs, on dit en fait on s'en fout de ce qui vous arrive à chaque fois que ça se passe pour vous. Ça, c'est quand même inentendable sur le plan humain.
Clairement.
Donc, on vous laisse méditer là-dessus. N'hésitez pas à réagir pour nous dire ce que vous en avez pensé, ce que ça a pu... réveiller ou faire bouger chez vous. Et on va faire régulièrement ce rendez-vous-là, qu'on a appelé Chères Amies Blanches, sur différentes thématiques. On va essayer de se retrouver à peu près tous les mois. Et voilà, la prochaine fois, on ira plus en détail sur ce sujet de clivage dans la sororité.
À bientôt.
À bientôt, merci Selma. Merci d'avoir passé ce moment communautaire avec nous. On se retrouve très vite pour un nouveau crossover de Méli Méli et Guerre Constellaire.
Si tu es pro de l'accompagnement et que tu te lèves le matin avec l'envie de déboulonner le système capitaliste slash colonial, tu peux rejoindre la pilule rouge de notre espace de formation pour décoloniser sa pratique.
Et pour te mettre le pied à l'étrier, nous proposons une formation de base. 2 heures pour changer de paradigme en apprivoisant les concepts clés de la décolonialité. Toutes les informations en description de l'épisode et sur notre compte Instagram @la.pilulerouge. À bientôt!